Pour ce temps de retraite, nous vous proposons de nourrir l'intelligence de notre foi à travers 6 petits enseignements. Dieu est amour, la liberté, le péché, le pardon, l'appel et l'offrande. Commençons donc en ce premier jour par Dieu est amour. Si nous lisons la Bible, nous constatons que cette affirmation « Dieu est amour » arrive quasiment à la fin du Nouveau Testament. En effet, c'est Jean qui nous la donne dans sa première lettre, au chapitre 4, versets 7 et 8. Je cite. « Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, car l'amour est de Dieu, et quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. Mais si cette affirmation s'énonce à la fin des Écritures, comme un apogée de la révélation divine, Dieu manifeste son amour tout au long de l'histoire biblique. J'en rappellerai 3 points. La création, la tendresse de Dieu et le commandement de l'amour. Premier point, la création. La première manifestation de l'amour de Dieu apparaît dès les premières pages de la Bible dans les textes de la création. Pour comprendre ce mystère d'amour, je partirai d'une définition de l'amour que nous propose Benoît XVI. Je cite. L'amour est extase, mais extase non pas dans le sens d'un moment d'ivresse, mais extase comme chemin, comme exode permanent, allant du jeu enfermé sur lui-même vers sa libération dans le don de soi et précisément ainsi vers la découverte de soi-même, plus encore vers la découverte de Dieu. Alors c'est dans Dieu est amour au chapitre 6. L'amour est extase, en deux mots, extase, au sens étymologique du terme, c'est-à-dire être en dehors de soi-même, être expulsé de soi-même. Ainsi, la création est extase de Dieu, car elle jaillit de l'amour entre les trois personnes de la Trinité. La création est l'expression de l'essence divine, de son amour dans un mouvement de pure gratuité. Dieu se dit sans contrainte, sans obligation, sans exigence de contrepartie, dans une liberté absolue. Il donne vie à l'univers et insuffle son origine en chacun de nous. Et nous sommes invités à contempler l'artisan de l'univers à travers la beauté de ses œuvres, comme nous le rappelle le livre de la Sagesse. Le chapitre 13, verset 1-5. Vains sont ceux des hommes par nature chez qui l'ignorance de Dieu s'est installée. À partir des biens visibles, ils n'ont pas été capables de connaître celui qui est, pas plus qu'ils n'ont reconnu l'artisan en considérant ses œuvres. Car la grandeur et la beauté des créatures conduisent par analogie à contempler leur créateur. La beauté de la création nous invite donc à contempler le mystère de Dieu. Deuxième point, la tendresse de Dieu. La tendresse de Dieu se manifeste dans son alliance. Une alliance que les auteurs bibliques ont dépeinte en termes de conjugalité, comme une histoire d'amour. Et une histoire d'amour commence par l'élection. L'autre est l'élu de mon cœur. Dieu choisit des hommes et des femmes pour conclure une alliance. Nous reviendrons sur ce thème de l'appel lors d'une prochaine séance. Après l'élection, germe le temps de la promesse et de l'engagement. Le prophète Osée parle de fiançailles à propos de l'engagement de Dieu pour son peuple. Je cite Osée chapitre 2, versets 19 et 20. Je serai ton fiancé pour toujours. Je serai ton fiancé par la justice, la droiture, la grâce et la miséricorde. Je serai ton fiancé par la fidélité et tu reconnaîtras le Seigneur. Faisons un petit commentaire de ce passage. Dieu fiancé d'Israël est par extension de tous les peuples et donc de chacun de nous. étonnante image imprégnée de tendresse et d'avenir prometteur. Pour exprimer cette aventure passionnée, Osé utilise les mots des amoureux de tous les jours en leur donnant un rayonnement divin. Dans ces versets résonne le mystère de l'engagement de Dieu auprès de l'humanité. Il commence par un désir d'éternité. Tous les amoureux conjuguent le verbe « aimer » avec le qualificatif « pour toujours ». Vient ensuite la volonté de respecter son partenaire dans la justice et le droit. Puis se déroule la vie conjugale avec des moments de grâce, ainsi que des temps de pardon et de miséricorde. N'oublions pas bien sûr la fidélité. S'aimer, c'est demeurer fidèle à ses engagements, à ses partenaires choisis pour toujours. Enfin, après les fiançailles, vient la connaissance. Osé utilise le verbe hébreu « yada » qui est celui de la relation sexuelle. Dieu connaît l'humanité comme deux amoureux qui se connaissent dans l'intimité. Dans cette histoire d'amour se dégage une passion colorée d'une infinie tendresse. Dieu sait aussi exprimer des mots d'amour dignes des meilleurs amants. Quel partenaire ne voudrait pas s'entendre murmurer au creux de l'oreille cette passion de Dieu ? Je cite Isaïe et Jérémie. « Tu as du prix à mes yeux et je t'aime. » Isaïe 43, 4. « Je t'aime d'un amour éternel. » Jérémie 31, 3. Dieu se rend tout proche pour nous faire chavirer. Ce langage amoureux et familier montre à quel point Dieu veut être un partenaire pour une aventure commune et amoureuse. Dieu aime passionnément sans demi-mesure. Cet amour tendre et passionné de Dieu s'exprime aussi à travers la figure du Père dans une relation filiale. Je voudrais simplement ici mettre l'accent sur la tendresse de Dieu, tendresse dont le monde d'aujourd'hui aurait bien besoin. Une tendresse aux accents féminins, comme le souligne Clément d'Alexandrie, un père de l'Église du IIe siècle. Je cite. Par sa mystérieuse divinité, Dieu est Père. Mais la tendresse qu'il nous porte le fait devenir mère. Le Père se féminise en aimant. On peut aussi citer Thérèse de l'Enfant Jésus. Le bon Dieu est plus tendre qu'une mère. Prenons simplement deux exemples bibliques pour illustrer cette tendresse paternelle et maternelle. Psaume 103, verset 13. Comme est la tendresse d'un père pour ses fils, tendre est le Seigneur pour ceux qui le craignent. Isaïe 66, 13. Comme un enfant que sa mère console, moi aussi je vous consolerai. Et dans Jérusalem vous serez consolés. Cette tendresse infinie se prolonge jusque dans les entrailles. Le mot entrailles, rehem en hébreu, désigne le sein maternel, la matrice. Nous le retrouvons en grec dans le « Je vous salue Marie », le fruit de tes entrailles. La forme plurielle hébraïque, rahaim, signifie miséricorde, notion que nous approfondirons aussi lors d'une prochaine séance. Je cite Isaïe 49,15. Une femme oublie-t-elle l'enfant qu'elle nourrit ? Cesse-t-elle de chérir le fils de ses entrailles ? Même s'il s'en trouvait une pour t'oublier, moi je ne t'oublierai jamais. Dieu n'oublie pas ses engagements. La fidélité est une caractéristique de son amour. On peut citer Deutéronome, chapitre 7, verset 9. Dieu fidèle garde son alliance et sa bonté. Alors comment connaître Dieu et se laisser habiter par sa tendresse et son amour ? Tout simplement en vivant de l'amour de Dieu. Troisième point, le commandement de l'amour. Reprenons les propos de Jean. Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, car l'amour est de Dieu, et quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. Jean met ici en rapport l'amour que nous nous portons mutuellement et la connaissance de Dieu. Nous avons vu que la connaissance désigne une relation intime. Ainsi, en aimant, nous entrons dans l'intimité de Dieu. C'est pour cette raison que le premier commandement est celui de l'amour. Je cite Matthieu, chapitre 22, versets 36 à 40. Maître, quel est le plus grand commandement de la loi ? Jésus lui répondit : Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est le premier et le plus grand commandement. Et voici le second qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. De ces deux commandements dépendent toute la loi et les prophètes. Paul insiste sur la primauté de l'amour dans les actions et les relations. L'amour doit accompagner le parler en langue, les prophéties, la connaissance, le partage de ses biens. Même le don de soi jusqu'à la mort doit être animé par l'amour, sinon il ne mène à rien. C'est dans 1 Corinthiens, chapitre 13. Saint Augustin, dans son commentaire de la première épître de Saint Jean, affirme également la nécessité de mettre l'amour au cœur de nos vies. Je cite Augustin, « Aime et fais ce que tu veux. Si tu te tais, tais-toi par amour. Si tu parles, parle par amour. Si tu corriges, corrige par amour. Si tu pardonnes, pardonne par amour. Est au fond du cœur la racine de l'amour. De cette racine, il ne peut sortir que du bon. Il ne peut sortir que du bon car cette racine est divine. Et cette racine apparaît dès la création. Dieu vit que cela était bon. Et même très bon pour l'homme et la femme qui sont créés à l'image de Dieu. En conclusion, nous sommes appelés à naître et à vivre de l'amour de Dieu. C'est dans l'amour donné et reçu que nous connaissons Dieu. Durant cette retraite, nous pouvons nous demander : les autres autour de moi voient-ils mon amour pour mon conjoint, pour mes enfants, pour mes voisins et collègues, pour mes frères et sœurs dans l'Église ? Suis-je témoin de Dieu amour ? Je vous remercie de votre attention.